Dehors, ça s'agite. Les parents ont pété les plombs, forcé les barrages, menacé de casser la figure des policiers, tenté de se jeter vers le ministre de l'Intérieur. Ils ont mis leur terreur en ligne. Dans moins d'une heure, la planète bouillonnera. Le maire de Vernet a ouvert son bâtiment pour que les familles patientent au chaud. La plupart refusent de s'y rendre. Des psychologues ont été appelés en urgence, afin de les faire ventiler. L'ambassadeur des États-Unis vient d'arriver. La Maison Blanche est prévenue. Le premier troupeau de journalistes est sur place. Ils sont parqués le plus loin possible pour éviter le fiasco de l'hypercachère en 2015. Le coordinateur gère le pouvoir politique au bord de la panique. J'entends déjà leurs injonctions. Dépêchez-vous, vous intervenez quand ? Je visualise la scène. Je peux écrire les mots du coordinateur à l'avance. Nous les connaissons si bien. Non, une intervention serait prématurée car les enfants risqueraient leur vie. Or, la priorité absolue reste leur libération. Et non, l'idée n'est pas d'éliminer le forcené, mais de l'attraper vivant. Et oui, nous savons ce que nous faisons. Faut-il rappeler que nous sommes militaires, mais pas demeurés. La routine. Dans la cantine, nous sommes cinq. Le coach, le coordinateur, le chef de section, le psychiatre criminel et moi. Le tableau blanc est constellé de mots entourés au fil de la conversation, de flèches, de points d'exclamation. Le psychiatre consulte ses notes. Le chef de section se détourne pour téléphoner au préfet à voix basse. Je vide une bouteille d'eau. Le coordinateur demande par radio si la logistique peut nous envoyer des sandwichs. Nous mutualisons les infos. Il doit avoir la petite quarantaine. Il est très très cortiqué. Il parle bien. Accent plutôt américain, urbain, de milieu aisé, fluide et précis. Son débit est propre, jamais tremblant. Je sais reconnaître les marqueurs vocaux, même infimes. Et je peux affirmer qu'il n'a pris aucune drogue. Sûr ? Insiste le chef de section. Affirmatif. Plusieurs instituts européens m'ont sollicité pour parvenir à déceler dans une voie les prémices de certaines maladies comme Parkinson, les troubles respiratoires ou la somnolence diurne. La voix ne ment jamais. Elle est un coffre-fort qui contient une mine d'informations. Je suis catégorique. Notre homme ne présente aucune altération mentale. Il n'a même pas bu un verre d'alcool. Il ne fume pas. Et il déteste les silences. Le psy ajoute qu'il assimile le silence à une faiblesse. Il voit le dialogue non pas comme un échange, mais comme une joute, afin d'asseoir son pouvoir. Car il aime le pouvoir. Et cela expliquerait qu'il ait pris l'identité d'Elon Musk, l'homme le plus puissant du monde. Si je résume, mon adversaire est persuadé que l'IA dévorera l'espèce humaine et que la seule façon de nous perpétuer, c'est de lui opposer la barbarie et la bêtise dont est incapable l'IA. Son raisonnement cible une mécanique délirante, mais logique. C'est un dingue intelligent. Les pires. Deux éléments m'inquiètent vraiment et je n'ai pas besoin de les énoncer. L'équipe ressent la même chose. Le premier, c'est que je ne comprends toujours pas ce qu'il attend précisément de cette prise d'otage. Le deuxième, c'est qu'il ne dit jamais Mathilde, ne prononce aucun prénom. En d'autres termes, il rejette l'humanisation des otages. Ce n'est pas bon signe. Il refuse aussi les gestes basiques qui adouciraient la situation des enfants. De plus, sans contact visuel, je ne peux pas miser sur la synergologie. Je n'ai pas accès au discours du corps. La voix est le seul fil qui nous relie. Un fil mince, trop ténu pour que je passe la troisième marche de la négo, celle qui consiste à susciter l'empathie. Or, si Elon ne me fait pas confiance, je ne peux pas le convaincre de détourner son projet. Il ne me laisse pas entrer dans sa logique. Il me bloque l'accès, déjoue mes tentatives. Je reste à la porte. Par ailleurs, sans caméra, nous ne parvenons pas à savoir où il est placé dans la classe. D'après le plan, la partie supérieure de son mur donnant sur le couloir est vitrée. Bien sûr, il a baissé le store. La classe communique avec la salle d'à côté par une porte que personne n'envisage d'ouvrir. Ce qui n'empêche pas mes gars de s'y tenir accroupis, armes en main, en cas d'assaut. Bref, mon adversaire a clos toutes les possibilités d'être vu. Le coordinateur envoie un échantillon de sa voix enregistré au labo afin de le comparer avec la vraie voix d'Elon Musk, procédure obligatoire mais qui nous fait perdre un temps précieux. Car le plus urgent, c'est de trouver l'identité de cet homme. La PJ nous a transmis les recherches effectuées sur le maire de Vernet, le directeur de l'école, la maîtresse, les enfants, les familles. D'autant que le père d'un des enfants est un présentateur de télévision connu. Mais rien de rien qui laisserait émerger un mari, un concurrent, un créancier ou un ex devenu fou. L'entourage du vrai Elon Musk, alors. Qui pourrait lui en vouloir au point de le faire passer pour un preneur de petits otages? Le monde entier grince le coordinateur en désignant du menton la feuille du coach consacré au Road Challenge. Nos flics s'associent avec le FBI sur le pont, qui interroge le cercle d'Elon Musk, ses collaborateurs, ses anciens collègues du Doge, les licenciés de Twitter, ses trois ex-femmes dans cette Shirley, son équipe d'assistantes dirigée par une certaine Shirley. Les Américains passent même au crible l'entourage de Trump. On radiographie le public venu l'entendre à Vivatech, les 10 000 startups représentées. On se partage le travail, le FBI s'occupe de coincer les ponts américains, interroge le père et le frère d'Elon Musk, la PJ traque les intervenants français, dépouille les caméras de surveillance, est en train de fouiller la chambre d'hôtel qu'il occupait et tente de le joindre en personne. Pour l'instant, sans succès. Ce qui est un comble, glisse le coordinateur pour le gars le plus connecté du monde. Pas de tweet, pas de trace non plus de l'itinéraire de vol de son avion, visiblement le vrai Musk n'est pas reparti de France. Shirley a prévenu que ses évanouissements, comme elle dit, sont fréquents. Elon Musk aurait visiblement l'habitude de disparaître pour faire baisser la pression. La dernière fois, toujours d'après Shirley, c'était à la veille de l'élection de Trump, volatilisé. En fait, il s'était barricadé sous sa maison dans un bunker capable de bloquer les ondes de télécommunication. Il y a passé 3 jours. Inaccessible, injoignable. Nous sommes habitués. Ce sont les mots de Shirley que nous rapporte le FBI. Selon elle, son départ du gouvernement Trump expliquerait sa disparition dans un de ces bunkers en France que personne, pas même Shirley, ne peut localiser. Il a très mal pris la décision de Donald. Les flics américains nous préparent aussi la liste de ses ennemis. Depuis le rachat de X jusqu'au Road Challenge. En passant par les jaloux, tous ceux qu'il a virés de la Silicon Valley. L'entourage de Trump, les concurrents et même son père, pas franchement à attendre. En effet, ils sont nombreux. Si je résume, murmure le chef avant d'appeler le ministre de l'Intérieur, nous n'avons pas son identité, le véritable Elon Musk est introuvable, aucun enfant n'a été relâché, et le mobile de la prise d'otage reste flou. J'y retourne.